Il est 8h.
Il est préférable de dédoubler les classes. Ça serait mieux de prendre des mesures de freinage maintenant que d'attendre encore je ne sais combien de semaines.
Épidémiologistes, profs et parents d'élèves, ils alertent sur les contaminations en classe alors que la piste d'une fermeture des écoles est évoquée au sommet de l'État. Les informations du service politique d'Europe 1 à suivre. Dans ce journal, des chômeurs en immersion dans l'entreprise qui réfléchit à les embaucher. Une solution pour l'emploi, ce sera notre dossier. Et puis après deux fusillades en 7 jours aux États-Unis, voilà Joe Biden qui s'attaque à un serpent de mer de la politique américaine, légiférer contre les armes à feu. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard. Tandis qu'Emmanuel Macron promet une vaccination matin, midi et soir, qu'en pense ce maire auquel certains prêtent de grandes ambitions pour la suite? Verdict à 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. 800 classes étaient fermées pour des contaminations il y a 10 jours. 2000 une semaine plus tard. En Ile-de-France, les contaminations ont doublé parmi les enfants de moins de 10 ans. Et c'est un totem de la stratégie française qui est menacé. L'élément qui la distingue de nos voisins. On est bien obligé de s'interroger ce matin sur les contaminations dans les écoles. Et le chef du service politique d'Europe nous a rejoint.
Bonjour Michaël Darmon.
Bonjour, bonjour à tous.
En coulisses, on s'inquiète d'une dégradation encore plus importante de la situation qui forcerait l'exécutif à durcir encore un peu plus le ton.
Si dans 15 jours la situation ne s'améliore pas, il faudra passer au stade supérieur. Au sommet du gouvernement, hors micro, porte fermée, les propos sont alarmistes. La méthode du freiner sans enfermer ne convainc pas au sein du gouvernement, d'où l'accent en urgence mis sur la campagne massive de vaccination qui, elle, mettra plusieurs semaines à produire de l'effet. Pour l'instant, l'exécutif reste les yeux rivés sur des secteurs inquiétants. Les écoles, vous l'avez dit, les hôpitaux, pour début avril, les projections ne sont pas bonnes, confie un conseiller gouvernemental. En haut lieu, on évoque discrètement effectivement l'obligation prochaine de fermer les écoles si ça continue. Dans ce cas, le gouvernement pourrait marteler un nouveau slogan, on confine et on vaccine, et celui-là, tout le monde le comprendrait.
Les informations de Michaël Darmon pour Europe 1.
On rappelait les chiffres à l'instant. Il faut préciser que les tests salivaires ne sont pour l'instant déployés qu'en primaire, tandis qu'au collège et au lycée, seuls 10% des élèves acceptent le dépistage qu'on appelle nasopharyngé. Situation inquiétante qui amène Dominique Costagliola, épidémiologiste à l'Inserm, à demander au micro d'Anne Le Gall d'Europe 1 un vrai dédoublement des classes, et pas seulement d'ailleurs au lycée.
Ça fait longtemps que je le dis, mais c'est plus particulièrement vrai maintenant. Il est préférable de dédoubler les classes, mais ça implique d'avoir trouvé des locaux à proximité que l'on peut utiliser pour des écoles. Et de la même façon, quand on parle du dédoublement au lycée, ça ne veut pas dire venir une semaine sur deux, ça veut dire vraiment qu'il y a la moitié des élèves. Toute la classe est là, une semaine et pas celle d'après, ça n'a pas le même effet que si on y va toutes les semaines, mais seulement par demi-groupe. Ça serait mieux de prendre des mesures de freinage maintenant que d'attendre encore je ne sais combien de semaines.
Situation confirmée ce matin par un acteur de terrain, Raphaël, professeur d'histoire géo.
Oui, il travaille dans un collège de Seine-Saint-Denis, il est syndiqué au SNES et il était l'invité du 5-7 de Sébastien Krebs sur Europe 1.
Dans l'urgence, effectivement, les demi-groupes nous semblent le seul moyen de faire respecter les gestes barrières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on n'a pas de table individuelle. C'est-à-dire que les élèves partagent une table double et donc forcément, ils sont contraints de se toucher. Il n'y a aucune distanciation qui peut être mise en place en l'absence de demi-groupes, puisque je vous rappelle que le ministre s'est opposé finalement à la mise en place de manière généralisée sur le long terme de demi-groupes.
Alors plus globalement, il est difficile de comparer les vagues successives de l'épidémie en France, mais les chiffres sont clairs. 250 patients de plus aujourd'hui qu'au pic du mois de novembre dans les réanimations en Ile-de-France.
Il faut donc trouver des lits supplémentaires, ça ne se fait pas par magie. On doit encore déprogrammer des soins prévus pour d'autres maladies. Pas simple, la preuve à Melun avec ce reportage de Johanna Chabas.
Un service de réanimation en flux tendu. Une chambre est à peine libérée qu'elle est à nouveau occupée. 52 lits, soit 18 de plus que d'ordinaire. Et pour y arriver, l'hôpital a dû déprogrammer plus de 50% de ses opérations. Un taux inédit, selon le docteur Mehran Monchi, chef du service.
On pourrait difficilement, nous, aller au-delà, puisque les chirurgies qui restent sont des chirurgies qu'on ne peut plus décaler dans le temps. La marge de manœuvre qui reste n'est plus si importante que ça.
Pour gérer cet afflux de patients, il a fallu augmenter la charge de travail travail des infirmiers du service. Ils ont maintenant moins de jours de repos et leurs congés sont annulés.
On a une semaine de repos par mois, sauf qu'avec le Covid, il n'y en a plus. On a des gardes de 12 heures, donc en fait, on n'a plus de répit. On se sent épuisé. En fait, on tient juste avec les nerfs, je pense.
Des soignants d'autres services ou des étudiants viennent en renfort, mais il faut les former, une charge supplémentaire pour Nisrine, infirmière.
Il faut leur remontrer comment on s'organise, être là, les aider pendant un long moment. Il faut savoir que c'est long en réanimation pour avoir de l'expérience et être plus à l'aise, on va dire.
Tous dans ce service pensent devoir tenir à ce rythme-là encore un mois avant peut-être de voir les effets des nouvelles mesures du gouvernement. Melun, Johanna Chabas, Europe 1.
En Martinique, un couvre-feu instauré à partir de vendredi et pour 3 semaines, 22h, 5h du matin. Le préfet évoque de nombreuses contaminations le soir dans le cadre amical, familial et festif.
8h05 sur Europe 1, une solution à présent. Une initiative pour faciliter la sortie du chômage.
Oui, Pôle emploi permet à des chômeurs de s'immerger dans une entreprise pendant plusieurs jours. On est un petit peu là, à mi-chemin entre un stage et une période d'essai.
Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Ce dispositif d'immersion en entreprise, il répond à quelle nécessité ?
Alors son objectif, c'est de permettre à un demandeur d'emploi de découvrir un nouveau métier dans lequel il envisage de se reconvertir, ou s'il a déjà fait son choix, de vérifier en situation que c'est le bon choix. Et puis l'immersion en milieu professionnel peut aussi servir à initier une démarche de recrutement.
Alors restez avec nous Olivier, on a la théorie, voilà la pratique sur le terrain. C'est ce reportage de Mélina Fachin à Schiltigheim près de Strasbourg, avec un demandeur d'emploi qui a passé quelques jours aux ateliers Meyer. C'est une entreprise spécialisée dans la restauration de tables qui fait, entre autres, de la dorure sur bois.
Sur ce cadre-là, il va bien falloir faire attention de poser la feuille bien droite.
D'accord.
Dans cette entreprise familiale, Pascal Meyer transmet ses connaissances de meilleur ouvrier de France à Gennaro. Cet Italien de 36 ans, au chômage depuis quelques mois, a fait des études artistiques, puis il a été couvreur. Ses 2 jours en immersion dans l'atelier vont certainement lui permettre de se reconvertir maintenant en doreur.
J'avais pas imaginé comme ça spécifiquement la dorure, mais après ces périodes d'immersion et connaître l'atelier en activité, je vois que tout ça c'est possible.
Le jeune homme continue de toucher ses allocations Pôle emploi. Le gérant de l'atelier, Pascal, n'a donc rien à débourser. Et cela lui permet de repérer très rapidement les qualités de Gennaro.
On a réussi, grâce à Pôle emploi, à trouver une personne motivée. Dans notre domaine, c'est très compliqué. Il aime ça, il est habile de ses mains. Et puis on espère que c'est juste le début d'une histoire qui durera très longtemps.
Gennaro est encore en formation pour 2 mois, mais il devrait très bientôt devenir le 7e salarié de l'atelier Meyer.
Olivier Samin, combien de demandeurs d'emploi suivent ces immersions en entreprise ?
Eh bien, en 2019, 182 000 chômeurs ont pu bénéficier de ce dispositif. Alors, c'est pas toujours 1 mois, voire 2. La durée moyenne, c'est plutôt 7 jours. Le profil des bénéficiaires, un peu plus jeune que l'âge moyen des chômeurs inscrits à Pôle emploi, un peu plus de femmes que d'hommes. Autre donnée intéressante, près d'un tiers des bénéficiaires ont débuté leur immersion dans les 3 mois qui ont suivi leur inscription à Pôle emploi, donc très vite.
Oui, la démarche est assez séduisante. Est-ce qu'elle donne des résultats probants ?
Eh bien, d'après une étude qui a été publiée par Pôle emploi la semaine dernière, une année après la fin de l'immersion, 72% des bénéficiaires ont eu accès à un emploi, alors que le taux n'est que de 55% pour les chômeurs qui ne suivent pas ces périodes d'immersion. Donc visiblement, ça paye. Faut dire que les entreprises y trouvent leur compte. C'est une forme de période d'essai avant l'embauche, donc sans salaire à verser, mais avec la nécessité quand même de consacrer des moyens à l'accompagnement du demandeur d'emploi. Quant aux bénéficiaires, au-delà de l'embauche possible, il voit dans ce dispositif un moyen de gagner en confiance avant de reprendre un emploi. Un
dossier Europe 1 signé Olivier Samin et Mélina Fachin.
8h08, vous restez avec nous dans un tout petit instant. Joe Biden, comme Barack Obama avant lui, va tenter de durcir les lois sur le port d'armes. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Aux États-Unis, il y a eu les 8 morts d'Atlanta la semaine dernière et les 10 personnes tuées lundi dans un supermarché du Colorado. La répétition des événements marque l'opinion publique américaine.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
La Maison Blanche a été forcée à réagir et c'est la une des journaux américains ce matin.
Eh bien, le débat sur les armes, une nouvelle fois relancé après 2 fusillades et 18 morts en une semaine, souligne le Washington Post, à Atlanta, en Géorgie et à Boulder, dans le Colorado. USA Today reprend les déclarations de Joe Biden. Nous devons agir. Le président américain appelle le Congrès à adopter immédiatement une loi pour combler les lacunes existantes et interdire la vente de fusils d'assaut. Le Wall Street Journal rappelle que Joe Biden a déjà tenté par le passé de s'attaquer à la violence armée. Au Sénat, il avait œuvré pour faire interdire les armes d'assaut dans les années 90. D'ailleurs, le contrôle des armes à feu figurait en bonne place dans le programme du candidat démocrate, signale le New York Times, mais la question a été reléguée au second plan à cause de la pandémie. Ce sujet controversé devient désormais une des principales priorités du président, estime Politico, mais il est peu probable que les Républicains soutiennent les projets de loi défendus par les démocrates.
Alexis Guilleux avec nous à New York pour Europe 1. En Israël, le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, arrive en tête des élections législatives. Dans un discours hier soir au siège de son parti, il parle d'une immense victoire. Mais il n'a obtenu qu'environ un quart des sièges du Parlement, la Knesset, et n'est donc pas certain de pouvoir former une coalition pour gouverner. Un rendez-vous ce soir, 20h45, c'est du football. Le tout premier match de l'équipe de France pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. France, Ukraine au Stade de France. Et on va voir comment Paul Pogba anticipe cet affrontement avec cet adversaire, l'Ukraine.
On a des objectifs, c'est de gagner, de se qualifier. C'est une chose qui va être difficile parce que maintenant plus rien n'est facile et faut pas oublier qu'on est quand même les champions du monde, donc les équipes veulent nous battre et ils vont tout faire pour. On a 3 matchs, il va falloir être présent. Faut faire le job, comme je dis.
Voilà, Paul Pogba au micro de Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Et puis, ce sera sans doute le drone le plus cher du monde, ou plutôt de l'univers. Un drone, un petit hélicoptère d'1,8 kg et d'1,20 m d'envergure à 85 millions de dollars. La NASA nous informe que la première tentative de vol de ce petit hélicoptère sur Mars, ce sera pour le 8 avril. Mais ce qui est très compliqué, c'est que l'air martien, l'atmosphère est beaucoup moins dense qu'en France, que sur Terre.
En France notamment.
Et du coup, les pales de ce petit hélicoptère n'ont pas de prise sur cette air qui est 100 fois moins dense.
C'est plus dur de s'envoler.
C'est exactement beaucoup plus compliqué.
Ça fait toujours rêver ces histoires. Un hélicoptère sur Mars. Voilà ce que vous apprenez aussi à la fin du journal de 8h ce matin avec François Geffrier. Merci François. Il est 8h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un excellent réveil à toutes et à tous. Dans quelques toutes petites secondes, l'interview politique de Sonia Mabrouk avec David Lisnard, le maire Les Républicains de Cannes. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard.
Bienvenue à vous et bonjour David Lisnard.
Bonjour.
On va évoquer bien sûr en détail la situation sanitaire, mais tout d'abord une réaction à la polémique autour de la mairie verte de Strasbourg, pointée du doigt par Gérald Darmanin, car elle finance une mosquée soutenue par une fédération qui n'a pas signé la charte des principes de l'islam. Est-ce que ça revient selon vous à financer les ennemis de la République ?
On a manifestement là une traduction de l'islamo-gauchisme. Et les ambiguïtés de certains partis politiques ou de certains dirigeants de ces partis éclatent au grand jour. C'est-à-dire qu'on a une association qui est subventionnée avec de l'argent public et cette association refuse de signer la charte des principes de l'islam en République française. Et donc, c'est une situation... Alors, évidemment, on est en Alsace, donc il y a la possibilité de subventionner des lieux cultuels. Chacun doit pouvoir vivre dignement son culte, évidemment, quelle que soit sa religion, mais cette possibilité ne vaut pas obligation. Et en l'occurrence, soutenir une association qui est proche des fréristes, donc qui est proche de l'islamisme radical, dans le contexte actuel, c'est inadmissible. Et c'est une question politique forte. Et puis aussi des enjeux stratégiques. On est sur une mosquée et une association qui est très proche de la Turquie. On connaît aujourd'hui la volonté géopolitique de domination de la Turquie.
Et d'ingérence, comme l'a dénoncé le président de la République sur éventuellement l'élection présidentielle.
C'est vrai dans le Levant, c'est vrai au Maghreb, c'est vrai en Asie mineure, c'est vrai en Europe. Donc il faut arrêter la naïveté. Et cet islamo-gauchisme dont certains nient la réalité, eh bien, a une traduction très claire à Strasbourg aujourd'hui. Et il faut combattre cela.
Alors venons-en au plan sanitaire, David Lisnard. Il faut vacciner matin, midi et soir, affirme le président. Amen. Mais est-ce que cette fois, vous croyez au sursaut ?
Il y a des réalités. La réalité, c'est que la France aujourd'hui vaccine chaque jour 0,9% de sa population. Encore moins. Je dis une bêtise d'ailleurs. Je crois que c'est 0,19% de
exactement,
sa population.
Ouais.
La Grande-Bretagne vaccine 5 fois plus. Les États-Unis vaccinent 4 fois plus. Je ne parle même pas d'Israël qui a vacciné beaucoup plus. Donc, on entend dire depuis le mois de décembre qu'il faut vacciner, vacciner, vacciner. C'est une course contre la montre. Dans la réalité, les faits sont têtus. Il y a un fiasco de l'accès au vaccin, mais face à cela, on a un double devoir. Nous avons un devoir civique d'accompagner l'État pour réussir la vaccination. Heureusement que les mairies en France, de leur propre initiative,
mais on va en parler, mais pardonnez-moi, cette impulsion du président de la République, est-ce que c'est de l'agitation ou est-ce que c'est un volontarisme au service de l'action, mais pour vous?
Certainement les deux.
Votre réponse.
Bah oui, c'est bien ce que je comprends souvent. Mais on voit bien qu'on a de la communication et du théâtre qui fait beaucoup de mal, mais c'est vrai en vaccination, c'est vrai en matière de sécurité, c'est vrai en matière d'éducation, c'est-à-dire des grandes annonces, très souvent de la grandiloquence dans les mots et de l'impuissance dans les actes. Et donc, face à cela, on est dans une crise majeure. Donc, on ne peut pas se contenter de critiquer. Il faut surtout accompagner et réussir la vaccination. On a échoué sur 3 mois. C'est grave parce que ce retard ne se rattrape jamais. Mais maintenant, il faut que ça fonctionne. Les mairies sont des partenaires. Donc, on a un devoir civique d'accompagner. Mais on a aussi un devoir politique d'interprétation et d'analyse des échecs français.
Allons-y alors. Est-ce qu'on est en train de tirer les enseignements de nos retards et de nos manquements? Un exemple concret, les vaccinodromes. Vous l'aviez demandé à ce micro, d'ailleurs, il y a quelques semaines, quelques mois, le gouvernement s'est finalement converti à ces méga-centres. Vous dites banco, on y va?
De toute façon, nous, on a commencé. Moi, j'ai mis en place à Cannes les vaccinodromes depuis le 6 janvier. On peut monter à 1200 vaccinations au jour en respectant les protocoles très très lourds administratifs qui nous sont imposés. Mais ça dépend des doses. Donc, il faut comprendre que tous les pays ont fait des erreurs. C'était un virus nouveau. On l'a vraiment connu à partir d'avril-mai, mais jusqu'à avril-mai, on connaissait peu sa létalité, sa contagiosité, etc. Ce qui caractérise notre pays, c'est qu'à chaque étape, on s'est planté. Ça a commencé par le manque de gel hydroalcoolique, 6e puissance mondiale. On a oublié les masques. On ne disait pas porter des masques. Les mairies distribuaient des masques. On était attaqués au tribunal par l'État. La réanimation. Regardez les 170 milliards d'euros qui ont déjà été consacrés par l'État assureur. Ça fonctionne bien, il faut le dire, économique, pour compenser les pertes d'activité liées aux interdictions multiples. On aurait consacré ne serait-ce que la moitié de ces 170 milliards à avoir une vraie stratégie industrielle de production de vaccins.
Mais vous savez qu'une stratégie industrielle, monsieur le maire, se construit sur des années, et la droite que vous incarnez a été également au pouvoir. Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger depuis des années justement sur cet échec français?
Mais aujourd'hui, et ce mal français. L'enjeu majeur est de reconstruire l'indépendance de la France, la souveraineté de la France.
Et ça prendra des années, vous le savez.
La souveraineté de la France. Sinon, on ne peut pas faire de procès collectif. Moi, en ce qui me concerne, je suis maire depuis 2014, et dans ce que je dirige à mon niveau, j'ai appliqué mes principes. C'est-à-dire que j'ai pratiqué la sobriété fiscale, baissé la dette de 60 millions d'euros dans ma commune, créer des conditions d'attractivité entrepreneuriale. Donc,
mais
ce que je veux dire,
Cannes
c'est
est une très belle ville, mais ce n'est pas la France.
Où il y a des moins de 20 ans supérieurs à la moyenne nationale
Monsieur le maire, pardonnez-moi, je reviens par exemple, vous dites...
En prenant un cliché humoristique un peu éculé.
Bon, vous dites fiasco, mais par exemple, sur le manque de doses, c'est aussi et surtout la réalité européenne, il faut le reconnaître. Est-ce qu'il faut alors continuer coûte que coûte à jouer la solidarité européenne sur les vaccins?
D'abord, il faut ne pas être dans le déni. Or, on a entendu des dénis de l'exécutif à chaque étape, Olivier Véran, le Premier ministre, le Président de la République, et également de la Commission européenne. Il y a un échec européen dans l'acquisition des vaccins. L'Europe n'avait pas de politique sanitaire. Les États ont décidé, pour un principe que l'on peut comprendre, que l'Europe allait acquérir les vaccins. C'est un échec. L'Europe est à la remorque de l'Occident et la France est à la remorque de l'Europe en termes de quantité de vaccins par habitant. Il faut en tirer les conséquences.
Alors, est-ce que vous, au pouvoir...
Mais ce que l'on reproche à l'Europe, ce sont les propres travers français.
Oui.
C'est-à-dire, c'est l'excès de bureaucratie, c'est l'effet de suradministration, c'est l'affaiblissement de l'État dans sa capacité décisionnelle. Un État qui, en France, prélève plus qu'ailleurs. On était à 47% avant le quoi qu'il en coûte de prélèvement obligatoire. On a une dépense publique qui est la plus élevée du monde. On était à 56% avant la crise Covid. Et on a des services publics sur l'essentiel qui se sont
très
dégradés.
Très bien, mais voilà pour le diagnostic. Mais vous êtes dans l'action, monsieur le maire. Est-ce que, par exemple, très concrètement sur la stratégie européenne, puisque vous me dites que c'est un échec, est-ce que vous, au pouvoir, vous décidez d'inclure le vaccin russe Sputnik dans notre stratégie vaccinale en attendant, bien sûr, son homologation européenne? Est-ce que vous feriez le pari de produire et de miser sur ce vaccin russe pour aller plus vite?
Depuis le début, et je ne le dis pas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'été dernier, nous sommes un certain nombre à dire qu'il faut avant tout protéger la politique, c'est simple. C'est la protection et la projection de sa communauté. Donc lorsqu'on dirige la France, on doit avant tout protéger la communauté française. L'Europe est un levier de puissance. Mais là, en l'occurrence, c'est un étau. Et donc, pour répondre très concrètement à votre question, il faut bien sûr analyser tous les vaccins potentiels qui sont sur le marché. Il y en a d'autres que Sputnik. Et après validation des autorités sanitaires, c'est-à-dire des
évidemment, de l'Agence européenne.
Mais bien sûr qu'il ne faut pas fermer la porte.
Mais est-ce qu'il faut dès maintenant commander, décider de produire sur notre sol?
Pour Spoutnik, il y a un problème quantitatif. Hein, c'est-à-dire que la production de Spoutnik est nettement inférieure aux besoins, ne serait-ce que de la seule Russie. Mais oui, depuis le début. Mais un économiste comme Nicolas Bouzou, à qui on ne peut pas faire le procès d'être contre le pouvoir actuel, passe son temps à s'époumoner, et nous le faisons ensemble, pour dire que le fait d'avoir un marché de 500 millions de personnes doit être un outil de puissance. On ne sait plus raisonner en rapport de force et en puissance. L'Europe n'a de sens que si elle est un levier de puissance.
Monsieur Lisnard, vous avez entendu les coups de menton à la fois de Madame von der Leyen et d'autres. Est-ce que ça marche aujourd'hui?
Il faut faire, c'est travailler de façon rigoureuse. Comment accepter ce renoncement qui consiste à dire que la France, sixième puissance économique mondiale, en tout cas annoncée, et que l'Europe, premier marché du monde, n'est pas en mesure de discuter d'égal à égal avec les laboratoires, de racheter ou d'obtenir des droits pour la production de vaccins sous licence. Comment acceptons-nous que les États-Unis y arrivent, que la Chine y arrive, que la Grande-Bretagne y arrive, qu'Israël y arrive?
Alors qu'ils ont des chefs de guerre, entre guillemets, à la tête de ces États. D'où la question, Emmanuel Macron n'a cessé de parler de guerre et de bataille. Quel chef de guerre est-il pour vous ?
C'est accepter d'aller sur une métaphore qui, à mon avis, depuis le début, alimente le théâtre. C'est-à-dire, ce qui fait beaucoup de mal, je pense, à notre politique, à notre démocratie, et c'est pas propre d'ailleurs à Emmanuel Macron, c'est plus ancien, c'est la grandiloquence des annonces et l'impuissance des réalisations. Et ce différentiel fait douter beaucoup d'entre nous de la capacité de la démocratie à être efficace. Or, la démocratie peut être efficace, donc il y a un double problème. Il y a un problème de gouvernement, de management actuel. Nous avons, je pense, des personnes qui font du théâtre politique avant de travailler au règlement, à l'effectivité des situations, comme on le fait dans une entreprise, comme j'ai pu le faire dans
premier
des commerces,
de management,
comme je le fais dans des collectivités. Et le deuxièmement, il y a les lourdeurs françaises qui, depuis 40 ans, font qu'on surconsomme bureaucratie.
Monsieur le maire, pour les bousculer? Parce que là, on entend votre diagnostic, mais David Lisnard, est-ce que vous êtes aujourd'hui face à moi un opposant déterminé, comme on l'entend, à la politique d'Emmanuel Macron, et plus largement à sa manière avec laquelle il gère la France? Ou bien êtes-vous un Macron compatible, masqué? C'est pas parce que vous portez un masque dans notre studio, qui sort les griffes aujourd'hui avant de les limer et de rejoindre le président en vue de 2022.
Cette question porte plein de jugements de valeur. C'est-à-dire que vous considérez que lorsqu'on s'engage dans la vie publique, c'est forcément pour chercher un poste ou pas. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas.
Je ne suis pas naïf.
Ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire valoir mes convictions autour de la liberté de création entrepreneuriale. Comment on sort de ce principe de précaution qui fait que on n'arrive plus à la politique industrielle.
Il y a pas mal chez vous de Macron compatibles, plus ou moins masqués.
Je ne rejoindrai pas Emmanuel Macron. Je ne l'ai pas fait il y a quelques années. Je ne le fais pas aujourd'hui. Je ne le ferai pas demain. Non pas par obstruction bête, mais parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a la place, il y a surtout le besoin pour la France d'un projet fort autour du redressement, de la remise
avec
en ordre
agenda.
Pour une France plus prospère, une France plus sûre, une France plus unie. Notre pays est en train d'éclater. Notre pays peut rebondir, on a d'immenses talents, d'immenses potentialités, de grands chercheurs aujourd'hui, ils partent tous, et donc de retrouver la capacité capitalistique industrielle, la capacité de faire de la France une puissance éducative, de cesser de renoncer à ce que l'on est, et donc je suis en train de réunir des talents pour construire un agenda de gouvernement, et dont j'espère s'emparera quelqu'un qui aura un leadership pour proposer une alternative forte, crédible, raisonnable, autour de la liberté entrepreneuriale et de l'ordre républicain.
Mais monsieur le maire, par exemple, Xavier Bertrand prépare une offensive là, dans les prochains jours. Est-ce qu'il a la stature d'État présidentiel pour répondre à tous les mots MAUX que vous avez cités de notre pays, malheureusement?
Je ne m'exprimais que sur ce que je propose. Et aujourd'hui, il faut un projet radical de libération du pays, de transformation des dépenses de fonctionnement de l'État en dépenses d'investissement. On sait le faire dans des grandes boîtes, on sait le faire dans nos commerces, on sait le faire dans les collectivités. L'État a 40 ans de retard en la matière, c'est ce que je proposerai.
Et puis aussi, elle va vous plaire, monsieur le maire.
De redonner la spiritualité à notre
Napoléon.
Pays par la culture, et c'est une très bonne transition.
Ben voilà, Napoléon, l'histoire qui dit « À la guerre, l'audace est le plus beau calcul du génie ». On manque d'audace, peut-être de génie, à voir.
On manque d'audace, on manque de génie, on manque de panache. Et la France, c'est Cyrano de Bergerac, c'est Napoléon, c'est le général de Gaulle, c'est des grands bâtisseurs. Voilà, et c'est ça la France. Et c'est cette France-là, on doit construire une fierté, un avenir français. C'est vraiment l'enjeu des prochains mois.
Merci David Lisnard. Est-ce que c'est l'histoire qui nous sauvera ? En tous les cas, pour vous, c'est la culture qui nous sauvera, puisque vous publiez mi-avril un livre intitulé « La culture nous sauvera » aux éditions L'Observatoire.
Absolument.
Merci d'avoir
pour
été.
Pour remettre le mérite et que chaque Français, chaque enfant, qu'il soit... quelle que soit son origine, quelle que soit sa conviction, se sent dépositaire d'un patrimoine et porteur d'un avenir. La culture est un formidable outil de mérite, d'émancipation et de lien social.
Évidemment, et ça c'est transpartisan, toutes les étiquettes, on peut le dire.
Et il existe une culture française, contrairement à ce qu'a dit le président de la République.
Bonne journée à vous.
Merci,
merci Sonia Mabrouk, il est 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info, la météo dans quelques secondes, à tout de suite sur Europe 1, bon réveil.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Ce n'est plus un tabou au plus haut sommet de l'État, l'éventuelle fermeture des écoles face à la progression des contaminations. 15 500 cas en fin de semaine dernière contre 900 la semaine précédente. Le nombre de classes fermées ne cesse d'augmenter et les chiffres de l'incidence chez les plus petits s'affolent aussi à Anne Le Gall.
Oui, sur les deux dernières semaines en Île-de-France, l'incidence a doublé chez les moins de 10 ans, passant de 129 à 275 cas positifs pour 100 000 habitants. Situation similaire dans les Hauts-de-France, avec une incidence qui passe de 138 à 258 en un mois. Alors il est vrai qu'il y a davantage de tests, mais ces niveaux n'ont jamais été mesurés chez les plus jeunes et dans ces deux régions sous surveillance. Les chiffres d'incidence interpellent aussi chez les 10-19 ans, donc les collégiens et les lycéens, car là, on approche de la barre des 500 cas pour 100 000 habitants dans les Hauts-de-France. Et en Île-de-France, on est déjà à une incidence de 673 cas pour 100 000 adolescents. C'est bien au-delà de la moyenne nationale, mais les cas positifs chez les plus jeunes augmentent partout en France. Au total, 2000 classes ont été fermées la semaine dernière, un chiffre multiplié par 4 depuis le début du mois.
Et côté enseignants, vaccination possible dès la mi-avril, une campagne vaccinale qui s'élargira dès samedi aux plus de 70 ans sans comorbidité. Près de 2 mois après le coup d'État en Birmanie, plus de 600 personnes relâchées aujourd'hui, mais la répression de la junte reste sanglante. Une petite fille de 7 ans aurait été tuée hier. Le foot France-Ukraine ce soir, début des matchs qualificatifs pour le Mondial 2022. Ce sera à partir de 20h45, mais aujourd'hui aussi, c'est l'avenir d'autres compétitions qui va se jouer au siège de la Fédération française de foot. Comité exécutif cet après-midi, Lénaïque Monnier avec sur la table l'arrêt des championnats amateurs.
Oui, avec d'abord ce chiffre alarmant, le foot amateur a perdu 10,6% de ses licenciés. C'est ce que nous dit la Fédération française de foot après le dernier recensement. Indicateur préoccupant, corroboré par Didier Essor, qui est le président de la Ligue des Pays de la Loire.
Aujourd'hui, l'inquiétude, elle est sur est-ce que les seniors vont revenir ? Est-ce que les jeunes vont revenir l'année prochaine ? Vous savez, on parle des joueurs, mais les dirigeants, est-ce qu'ils reviendront ? Est-ce qu'ils ont autant envie ? Ces dirigeants, c'est un point important. On espère qu'ils reviendront, qu'ils auront envie de revenir, d'accompagner nos jeunes sur les terrains, ça c'est essentiel. Aujourd'hui, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de lien social dans les clubs. Hein. C'est ça aussi qu'on a perdu. Ces endroits de vie qui sont très importants, bien, ils ont disparu.
Alors annulation, saison blanche, Noël Le Graët pourrait décider de trancher la question ou bien de temporiser quelques semaines encore. On a besoin de faire le deuil de cette saison, nous a indiqué un président de Ligue. Mais il faudra sans doute se faire une raison, la reprise des championnats le 18 avril est très compromise. Et en contrepartie, la fédération enverra des équipements au club pour un montant de 10 millions d'euros.
Une précision de Lénaïque Monnier pour Europe 1, autre rendez-vous foot du jour, quart de finale aller de la Ligue des champions féminines avec à 18h un duel franco-français entre le PSG et Lyon.
Merci beaucoup Marion Calais, 8h34, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, du soleil pour tous aujourd'hui, avec quelques petites réserves sur la Bretagne et le Cotentin, où nous aurons quelques gouttes de pluie, et puis des nuages qui vont enfin envahir tranquillement les Pays de la Loire, la Normandie, la Picardie, le Nord dans l'après-midi, et ce soir l'Île-de-France. Les températures seront très douces cet après-midi, 14 degrés à Nantes, 15 à Nice et Thonon-les-Bains, 16 degrés à Épinal, Aurillac, 17 à Nancy, 18 à Nevers, Lyon et Paris, 19 degrés à Toulouse et Montluçon, 20 degrés à Bordeaux et 21 à Uzès dans le Gard.
Merci. Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h35 dans un instant notre santé, Jimmy Mohamed.
Et je vais vous parler d'hypersensibilité, hypersensibilité qui concerne 30% des Français. Vous allez voir que ce n'est pas une maladie, mais plutôt un tempérament, voire même une qualité.
Notre planète dans la foulée, c'est avec Fanny Agostini avant de retrouver Nicolas Canteloup dans 10 minutes. La revue de presse, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe 1. Nous sommes avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors on entend de plus en plus parler de l'hypersensibilité, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'être hypersensible, Jimmy?
Alors c'est la traduction française de highly sensitive qui veut dire hautement sensible. Alors c'est tout simplement une sensibilité supérieure à la moyenne. Ça concerne 30% de la population, c'est-à-dire un Français sur trois. Alors c'est plutôt simple comme définition, c'est des personnes qui vont avoir une très grande attention portée aux détails et une suractivation mentale de la personne hypersensible qui va décortiquer toutes les informations qu'elle reçoit. Elle va donc être très perméable, c'est-à-dire très réceptive à toutes les informations, qu'elles soient sensorielles, émotionnelles, cognitives ou même intuitives. L'hypersensible va être bousculé par le trop. Trop d'émotions, trop de pensées, trop d'empathie. Et ce trop va l'amener à suragir à des stimulations auxquelles les autres ne prêtent pas d'attention. Alors c'est parfois difficile, mais c'est aussi et surtout une chance, car ce qui peut déranger peut aussi donner de l'allant.
Mais alors, certains auditeurs vont peut-être se reconnaître, voire retrouver leurs proches dans ce que vous venez de décrire. Mais comment on fait pour savoir si on est hypersensible ?
Alors l'hypersensibilité, je vous l'ai dit, c'est très simple, c'est le traitement approfondi des informations, c'est-à-dire que chaque information va être décortiquée et le cerveau va être en suractivité. Ça va être des personnes qui vont être très observatrices, elles vont faire attention aux détails, tout le temps réfléchir et cogiter. Et pour une fois, il y a une forme de parité, ça touche autant les hommes que les femmes. La seule chose, c'est que les hommes ne sont pas très valorisés dans l'hypersensibilité. Car finalement, je vous l'ai dit, ce n'est pas une maladie, c'est un tempérament, c'est une nature. Et on sait que scientifiquement, il existe des preuves de l'hypersensibilité. Tout d'abord, on sait qu'elles vont avoir un microbiote différent. La flore digestive n'est pas la même, elles n'ont pas les mêmes bactéries dans le tube digestif. Et puis on sait qu'il y a une prédisposition génétique. On a certains gènes, notamment ceux qui vont utiliser la sérotonine, qui vont être un peu différents. Et du coup, la personne hypersensible va ressentir jusqu'à 40% plus fort la douleur. Ça veut dire que lorsqu'elle est malade, elle va avoir un peu plus mal que les autres. Et qu'à l'inverse, lorsqu'elle prend certains médicaments, eh bien peut-être qu'elle aurait besoin de doses un peu plus faibles, notamment pour les antidouleurs. Alors pour savoir si vous êtes hypersensible, vous avez plusieurs possibilités. Il existe sur Internet un site tout simple. Vous tapez l'Observatoire de la sensibilité. Vous avez un questionnaire pour les adultes, mais aussi pour les enfants, car les enfants hypersensibles existent aussi. Et si jamais vous voulez plus d'informations, eh bien il y a un seul auteur que je vous recommande, c'est Saverio Tomasella. Il est spécialiste de l'hypersensibilité. On l'a reçu de nombreuses fois dans son rendez-vous. Il écrit de nombreux ouvrages qui permettront de vous éclaircir.
Il faut noter, et on va simplement retenir aussi le site Observatoire de la sensibilité.
Exactement. Questionnaire, 40 questions. Oui, non, et vous savez si vous êtes
hypersensible. Parce que pour tout vous dire, Jimmy, pendant votre chronique, j'ai reçu deux messages d'amis qui me disaient « Ah, on parle de moi dans ta radio ».
Et voilà.
Donc voilà, les gens se reconnaissent très clairement. Je les salue par votre biais. Et vous, on vous retrouve, Jimmy, à 15h dans son rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. De quoi est-ce qu'on parle ?
Eh oui, on va parler de vous, Mathieu, des personnes qui souffrent de gaz, de ballonnement, d'éructation, et vous allez voir qu'on peut y arriver, des solutions simples existent aussi.
Il a osé. Le pire, c'est que je vous pose la question, j'ai la réponse sous les yeux, et je m'y attends tellement, Jimmy. Je me vengerai. Vous le savez, je me vengerai.
C'est
Jimmy.
Cadeau.
8h40 sur Europe 1. Elle est là aussi, vous l'entendez. Fanny Agostini, notre planète, c'est tous les matins sur Europe 1. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce matin, Fanny, à l'occasion d'un partenariat entre Europe 1 et Madame Figaro, qui sort un hors-série spécial Zéro Déchet, vous revenez sur le succès d'un supermarché du troc en Gironde. Un supermarché du troc ?
Ben absolument, je vous parle d'un supermarché d'un genre nouveau où tout est totalement gratuit dans l'idée de nous faire oublier ce que veut dire le mot poubelle. Donner, prenez, recycler, c'est le slogan de ce supermarché girondin dans lequel vous pouvez venir déposer n'importe quel objet dont vous n'avez plus l'utilité mais qui pourrait avoir une deuxième vie auprès de quelqu'un d'autre. Des objets, même s'ils sont cassés ou même en pièces détachées, et en échange, vous êtes libre de vous servir dans les rayons et de remplir votre caddie.
Alors ce supermarché du troc a largement permis la réduction des déchets dans la agglomération.
Mais clairement, c'est un énorme succès en tout. Sur une année, c'est 1000 tonnes d'objets qui ne sont pas partis à la benne à ordures et qui ont été échangés. Ce premier supermarché du troc, qui a ouvert en 2017, a si bien fonctionné qu'un deuxième est sur le point d'ouvrir ses portes. Une nécessité puisque, comme il est financé par les impôts locaux, seuls les habitants des communes qui contribuent à son financement y ont accès. Et c'est un luxe parce que l'endroit est vraiment très propre, bien organisé, de sorte à optimiser tous les tris et à faciliter la recherche d'objets d'intérêt. On peut vraiment y trouver de tout, des déchets verts comme du BRF pour fertiliser son jardin, des matériaux composites, des vélos, des poussettes, de l'armoire à glace jusqu'à la tasse à café. Et si vous achetez un objet qui mérite réparation, Mathieu, le supermarché, ça c'est encore plus innovant, prête même des outils à cet effet.
C'est vraiment innovant, car en même temps, ce supermarché est une déchetterie en fait, si je vous suis bien.
C'est Ben oui, imaginez faire vos courses et puis ramener en même temps vos déchets dans un même lieu. Vous pouvez venir chercher ce que vous avez besoin, déposer ce qui ne vous sert plus et aussi ramener ce qui inévitablement est voué à la déchetterie. Ici, vous serez sûr que vos déchets seront redirigés au bon endroit, dans la bonne poubelle. Du coup, en 4 ans, le taux de recyclage a augmenté de 85% et la quantité de déchets enfouis a diminué de 60%. Ce supermarché, c'est vraiment un bijou d'innovation. Une innovation, elle n'a pas besoin d'être technologique parfois. Et c'est vraiment superbe pour la gestion des déchets au quotidien. Une initiative qui devrait se démultiplier dans chaque département et à l'échelle des communes, qui est souvent l'échelon le plus pertinent pour appliquer des solutions écologiques et sociales.
Alors merci Fanny Agostini. D'abord, je rappelle notre partenariat avec Madame Figaro et ce hors-série spécial Zéro Déchet. Puis j'entendais votre liste de ce qu'on peut trouver, là, les poussettes, les vélos, l'armoire à glace. J'ai pensé à Boris Vian.
Un joli scooter, un atomic serre et du dalopillon. Une cuisinière avec un four en verre. Des tas de couverts et des pelles à gâteaux.
Voilà le supermarché du troc. Merci Fanny Agostini et Boris Vian ce matin sur Europe 1. Ça fait du bien aussi. 8h43.
Un bel aérateur pour bouffer les odeurs.
Bon réveil à tous. Vous êtes sur Europe 1 et dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presque.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46. Ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Oui, bonjour, bonjour Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer. L'info du jour, c'est que la situation ne s'améliore pas. On pourrait passer en effet du freiner sans enfermer au on confine et on vaccine. Mais attendez, je pose la question à vous Julie, on est proche, on n'est pas déjà en train de confiner et de vacciner? Je prends un Doliprane, moi. Jimmy Mohamed, s'il y a un truc plus fort, un dafalgan codéiné, je sais pas, moi, de la morphine, du crack de l'héros, je prends aussi. Ouais, même si c'est pas remboursé, tant pis. J'allais voir dans mon garage. Allez, l'autre info. C'est le gouvernement qui envisage la fermeture des écoles où les contaminations explosent. Ouais. Oui, cette année, on entendra, bon, j'ai pas eu le bac, mais j'ai eu le Covid avec mention bien. C'est mieux que rien.
Parlez pas de malheur, allez. Merci Mathieu. Emmanuel Macron veut donc accélérer la campagne de vaccination. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Il faut vacciner. Je veux qu'on vaccine matin, midi, soir. Si j'avais une seringue, je vaccinerais le jour, je vaccinerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je vaccinerais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce serait le bonheur.
Alors, vous voulez 10 millions de vaccinés d'ici mi-avril?
Absolument. Hein, on est à 9,2 millions, je crois. Ça nous laisse quoi, 20 jours pour vacciner 700 000 personnes? Ça va, la barre est pas haute. Même mon gouvernement de nullard devrait y arriver, je pense.
Alors, vous avez dit que les semaines à venir seront très dures sur le plan du virus et sur le plan hospitalier. Ça veut dire que de nouvelles restrictions sont possibles?
Tout à fait, chère Julie. J'ai demandé au gouvernement de travailler sur ce sujet. Et d'ailleurs, Jean Castex. Oui, tu tombes bien, Jeannot. On parlait de toi à l'instant.
Bonjour, monsieur le président. Vous êtes en ligne avec qui d'accord. Je reprends. D'accord, très bien. Le gouvernement, là, je suis avec toutes les suggestions de nouvelles mesures sur le modèle de celles qui ont été prises la semaine dernière, Monsieur le Président, afin de lutter contre l'augmentation des cas. Nous précisons d'ouvrir les magasins de vêtements, les terrasses, de reporter le couvre-feu à 20h30. Et surtout, nous avons un nouveau slogan. Le slogan est le suivant. Dors avec les miennes, toi avec les tiens et lui avec les siens.
Ouais. Écoute, je vois. Oui, vous voyez, Mme Julie, ça confirme ce que je vous disais. Les prochaines semaines vont être dures, très, très dures. Pour vous comme pour moi. Surtout pour moi, je crois.
Eh bien, bon courage, Monsieur le Président. À bientôt.
Je n'ai pas compris.
Le gouvernement tente de clarifier son confinement d'un nouveau genre grâce à un slogan « Dedans, avec les miens, dehors, en citoyen ». Bonjour, François Hollande.
Oui, bonjour, Mme Julie, M. Béliard, M. Cabrol, M. Lange, Martin Lange.
Oui, oui.
Salut.
Qui est avec nous.
Oui, qui est avec nous.
Mm-hmm. C'est notre nouveau machiniste.
Oui, tout à fait. Oui, non, je salue les nouvelles têtes. Et surtout lorsqu'elles sont bien pleines, bien faites, telles que la mienne. J'ai pu, dans mon... revenons à notre sujet.
Oui, s'il vous
j'ai
plaît.
Pu, dans mon emploi du temps surchargé de retraité, trouver un créneau pour venir dire du mal. Enfin, pardon, venir analyser, pardon, de façon impartiale, la politique du gouvernement du président Macron.
Et votre sentiment, alors ?
Alors, mon sentiment est nuancé. Je dirais que c'est un beau bordel. Autant, moi, souvenez-vous, j'avais un cap. Quoi, oui, monsieur Cabrol ? Oui, j'avais un cap. Bon, je vous accorde, monsieur Cabrol, qu'il y avait un mur devant mon cap que je n'avais pas vu, mais j'ai toujours gardé ce cap jusqu'au susdit mur. Autant eux, ils sont paumés, les gars, ils cherchent des slogans maintenant. Hein, franchement, freiner sans enfermer. Siffler en travaillant, c'était deux aussi.
Donc, si on a bien compris, vous ne faites plus confiance au gouvernement Macron.
Mais attendez, pardonnez-moi, je ne vous tutoie pas. Enfin, François Mitterrand faisait faire sa com par Jacques Attali et Séguéla, et Macron, lui, ouvrons les yeux, il demande à Pac-Man et Palmito.
Non, c'est McFly et Carlito.
McFly et Carlito. Oui, McDrive et Pepito, bon, on s'en fout. Non, mais est-ce que vous trouvez, est-ce que vous pensez, là, j'interroge Martin Lange, la nouvelle génération, est-ce que vous trouvez que ce sera sérieux dans les livres d'histoire?
Oui, mais Emmanuel Macron fait des tas de choses. Tiens, il a annoncé hier que la vaccination pour les plus de 70 ans, bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein?
Mais pour vous, peut-être. Mais pour Martin Lange, c'est la vedette de la matinale ce matin.
Mais c'est
pas
le plus jeune de l'équipe. Vous avez
voilà, c'est une bonne nouvelle. Non, peut-être, pour vous, peut-être. Pardon. Non, pardon. Quand je dis pour vous, peut-être, non, pardon, je viens d'être incorrect. Je viens de faire. Pardon, je viens de faire une Pierre Ménès, comme on dit désormais dans le jargon. Voilà, on la refait. Bon, ça vous fait quel âge, Mme Julie? 33, 34?
34,
non, monsieur Cabrol, pas de 1934, s'il vous plaît. Non, mais non, c'est à l'évidence, Mme Julie n'a pas 87 ans. En tout cas, elle fait moins. Bon. Monsieur Lange confirme. Il opine du chef. Je m'enfonce. Qu'est-ce qu'on disait?
Que Macron ouvrait la vaccination aux plus de 70 ans.
Non, je crois qu'on disait que vous aviez 87 ans.
Oui, c'est ça, un peu plus, 88.
Oui, vaccination aux plus de 70 ans. Oui, mais super, mais alors, quid des jeunes loups? Comme monsieur Lange ou quid des jeunes loups de 66 ans comme moi? Je me suis bien rattrapé là.
Oui.
Bon, je vous laisse. J'ai parlé de McDrive et Pepito, ça m'a donné faim.
Bon, bah, bon appétit. Alors, il n'y arrivera pas. Hein. McFly et Carlito, monsieur Hollande. Allons.
Hey,
Le nouveau protocole sanitaire prévoit des mesures pour les entreprises. On va en parler avec notre éditorialiste Nicolas Barré. Bonjour Nicolas, vous êtes spécialiste du monde de l'entreprise. Hein. Les salariés peuvent-ils supporter les nouvelles mesures, selon vous?
Oui, bonjour Julie. Bonjour. Oui, bonjour à Mathieu et à Martin Lange. Oui,
le héros du jour.
Les entreprises. On a fait un pari, il faut dire 10 fois Martin Lange.
Bon,
j'en suis à 8.
On est à 25. Alors,
sa famille sera contente.
Voilà. Alors, les entreprises doivent s'adapter, et les salariés aussi, c'est ma conviction. Bien sûr, le télétravail, c'est pas facile pour les salariés, parce qu'on aime tous aller au bureau, tout le monde le sait. Martin Lange le sait. Et profiter des petits plaisirs de la vie, comme, je sais pas, faire des photocopies, boucler un bilan comptable, prendre un thé au lait au distributeur, présenter un diagramme en bâton, hein, voire même téléphoner un client si on se sent d'humeur un peu fofolle. Ben oui, il faut kiffer un peu, on n'a qu'une vie. Hein.
Alors, les nouveaux protocoles recommandent aux salariés d'apporter leur panier repas.
Oui. Ah, ben je l'ai, j'ai le mien là.
Ah, vous l'avez, regarde, oui. Faites voir.
Aujourd'hui, c'est ma mère m'a fait du céleri rémoulade, une endive au jambon, du chou-fleur et un yaourt. Voilà. Ouais, mais c'est moi qui. Non, enfin, m'a préparé les ingrédients, mais j'ai tout fait moi-même.
Ah,
prends garde, Philippe Etchebest.
Oh là, il est très inquiet, Etchebest. Et il faut désormais laisser 8 mètres carrés autour de soi. Hein. Quand on mange à la cantine, par exemple, on recommande de rester, d'y aller tout seul. Hein, en fait.
8 mètres carrés autour de soi. Oui, ouais, bon, ben ouais. Ça va, je vois pas trop la différence avec avant.
Ah bon? Pourquoi?
Bah si, enfin, si, parce qu'enfin, autour de moi, ben, j'avais 25-30 mètres carrés, moi, autour de moi, tout seul. Donc j'y gagne, en fait.
Ah bah vous y gagnez, tant mieux, hein. Bonne journée, Nicolas.
Ok.
Pierre Ménès a suscité l'indignation générale à l'occasion du documentaire sur le sexisme dans le monde du sport de Marie Portolano. Le chroniqueur de Canal+ a dû s'expliquer sur certains de ses dérapages passés. Bonjour Pierre Ménès.
Ouais, salut Julie. Enfin, bonjour Madame Julie.
S'il vous plaît, oui.
Ouais, t'as vu, je suis poli, hein. J'ai rien sur ton décolleté. Ouais, j'ai compris la leçon. Tu dis pas à une meuf que tu lui ferais bien un bisou sur ses jolis nichons. Parce que si tu dis ça, tout de suite, on te traite de sexiste. Non, j'arrête avec ces conneries. Hein. Vu qu'on peut plus rien dire en 2021. Ouais,
c'est pas bon. Propre à 2021. Hein. Embrasser une collègue de force ou lui soulever sa jupe en public, ça a toujours été condamnable. On n'a pas fait ça à un homme, hein, franchement.
Ah, mais ça à un homme, ben non, ouais, non. C'est sûr. Je vais pas galocher Hervé Matou. Hein. Je suis pas pédé, non. Enfin, je suis pas une tape.
Oh là.
Enfin, je suis pas. Oh là, pardon. Je suis pas LGBT, plus. Ouais. Voilà. Même si, bien sûr. Attends, j'ai foutu mon papier avec les éléments de langage. Oui, bien sûr, je respecte la communauté homosexuelle vu qu'on est en 2021.
Ouais. Oh là. Bon, vous êtes. Formidable. Bon. Vous vous êtes défendu en disant que le monde avait changé. Vous avez dit, il y a 5 ans, ce serait passé crème.
Ah, ben ouais, crème. C'est sûr, ce serait passé crème. C'était moins coincé du derche. Hein. Avant, balance ton porc et toutes ces conneries. Là. Il y a cinq ans, je me souviens, Thomas Soto roulait des pelles à Hélène Zélani, tu te souviens? Bon, c'était pour déconner, elle disait rien. Hein, tout le monde. Bah ouais, mais c'était l'époque. Toi, t'as pas connu ça, Mathieu, avec l'ange encore moins, il a pas connu. Je crois qu'on est à 10.
Pas né,
ouais. Ouais, non. Tout le monde galochait tout le monde. Nikos roulait des pelles à Sandrine Quétier. Drucker relevait la jupe d'Anne Roumanoff. Toi, je t'aurais claqué le cul à la machine à café, tu m'aurais fait un bisou, t'aurais pas pleurniché. Hein.
Oh, mais non, mais je l'aurais pas fait, même il y a 5 ans. Enfin, on ne pouvait pas faire ça. Oh là là.
Ouais, bon.
Et vous avez peur des suites judiciaires de toute cette histoire?
Ouais, un peu. Bon, en fait, j'étais pas inquiet. Puis là, pour déconner, j'ai soulevé la robe de mon avocate. J'ai fait un chabit. Tu sais, chabit. Bon. Enfin, mon avocate qui est un avocat, en fait. Bon, il a mal pris. Bon, je sais pas comment ça a évolué, ces conneries. Hein. Plus personne sait s'amuser, en fait. Hein.
Bon, bah c'est bon, on va vous laisser, je crois. Hein. Merci beaucoup.
18h56. Merci Julie et Nicolas Canteloup, la revue de presse que vous pouvez, jeudi pour Martin. Martin Lange, qui est dans l'équipe depuis peu. Bienvenue Martin, évidemment. Tu vas pouvoir aller la télécharger en entier, l'envoyer à toute ta famille, tous tes amis. La revue de presse du jour. On salue Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange, les auteurs de Nicolas Canteloup. 8h56 sur Europe 1. Philippe Vandel pour Culture Média, la matinée qui continue. Bonjour Philippe.
Mais oui, bonjour. Avec des gens qui seront dans Culture Média, que Nicolas Canteloup aime beaucoup, Philippe Candeloro et Nelson Montfort. Ils seront là, le duo, ensemble, ils vont reprendre du service. Et les championnats du monde de patinage artistique, vous le savez, qui vont démarrer bientôt à Stockholm. Notre info média du jour, on va parler de la situation alarmante que traversent les kiosquiers. Non seulement ils se vendent de moins en moins de presse papier, en plus les abonnements ont doublé, les abonnements numériques, pardon. Et en plus, il y a une mésentente avec la nouvelle société de distribution. Nous serons avec le délégué du syndicat des kiosquiers, Erwan Dupas. Et puis la grand reporter Aniva qui raconte la guerre autrement dans sa bande dessinée. Ça s'appelle Dans la gueule du loup.
Philippe Vandel pour Culture Média de 9h à 11h. C'est sur Europe 1, bien sûr. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Philippe, mais de tous nos programmes, toute la journée, évidemment, sur Europe 1. Moi, je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là,
ce type est fou.
Le monde aura changé. On va vous le raconter.